Eh bien, bonjour et bienvenue dans cette édition de À propos. C'est un plaisir d'être ici avec vous tous. Au cours des deux dernières semaines, ma femme et moi avons effectué un long voyage en Asie avec Monsieur David Becker. Ce fut un voyage vraiment merveilleux et inspirant. Mais avant d'aborder le sujet principal du programme d'aujourd'hui, je souhaitais faire quelques commentaires au sujet de l'une des personnes dont le départ à la retraite a été annoncé par Monsieur Jim Franks récemment, Monsieur Harris Alazo. Monsieur Alazo a été notre ancien, dans l'est du Zimbabwe pendant nombre d'années, et il a pris sa retraite le sabbat du 3 janvier, accompagné de Monsieur Tim Waddell et de Monsieur Neville Smith. Ils sont venus d'Afrique du Sud pour être présents. J'aurais souhaité que nous puissions également être là, mais il se passe tellement de choses et nous ne pouvons pas être partout à la fois. Mais d'après ce que j'ai compris, ce fut une occasion merveilleuse, et lui, ainsi que son épouse, ont reçu un très beau cadeau de la part de l'Église, en leur hommage pour leurs années de service. Monsieur Alazo est membre de l'Église de Dieu depuis 55 ans. Il a été baptisé en 1971 et il a servi comme diacre pendant un certain nombre d'années et en 2011, j'ai eu le privilège d'être présent au Zimbabwe pour l'ordonner ancien. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je souhaitais faire quelques commentaires personnels à propos de sa retraite. Monsieur Alazo a aidé à servir les congrégations à Harare, à Kadoma, à Sunyati, à Kariba et à Gutu. Il est possible que certains parmi vous ne voient pas où se trouvent ces localités, mais il y a des lieux dispersés dans l'est du Zimbabwe où il a servi pendant bien des années. Il est maintenant au début de ses 80 ans et il a besoin de ralentir le rythme car il fait face à certains problèmes de santé. Nous apprécions vraiment les années de service de Monsieur Alazo. À présent, je souhaite parler de notre récent voyage en Asie. Au cours des dernières semaines, nous venons tout juste de rentrer, mais mon épouse et moi avons accompagné Monsieur Becker et son épouse, Dori, pour rendre visite aux frères et sœurs en Asie. Nous avons rendu visite à des membres en Malaisie, en Thaïlande, à Singapour et nous avons terminé à Manille, aux Philippines. Nous sommes partis pour ce voyage le 24 décembre. Vous pouvez imaginer que les aéroports étaient très fréquentés ce jour-là. Mais en raison du passage de la ligne de changement de date et de la durée du voyage, mon épouse et moi sommes arrivés en Malaisie le vendredi matin, 26 décembre. Nous sommes arrivés à Kuala Lumpur ce matin-là. Kuala Lumpur sert de capitale officielle et de principal centre économique dynamique de la Malaisie. C'est une immense et magnifique ville moderne, du moins vue de loin, et c'est là que nous nous sommes réunis le jour du sabbat. Nous n'avons qu'une demi-douzaine de membres environ, dispersés à travers la Malaisie, et une seule de ces personnes a pu se joindre à nous le jour du sabbat dans notre chambre d'hôtel. Cependant, l'une des particularités des assemblées dans cette région du monde, c'est que M. Becker organise, chaque vendredi soir, une assemblée sur Zoom pour les membres dispersés en Asie du Sud-Est. C'est ainsi que nous avons organisé l'assemblée du sabbat depuis notre chambre d'hôtel ce jour-là et retransmis une diffusion en direct par webcast pour environ 25 frères et sœurs dispersés à travers la Thaïlande, la Malaisie, Singapour et même jusqu'en Birmanie. Nous avons vraiment apprécié ce moment. Certains d'entre vous y sont peut-être habitués, c'est-à-dire fraternisés sur Zoom, et c'est ce que font ses membres juste avant et juste après cette assemblée. Et ensuite, nous avons déjeuné avec M. Chen, tous les quatre, et nous avons vraiment apprécié le temps passé avec lui. Puis, le dimanche 28 décembre, nous avons pris l'avion pour Bangkok, en Thaïlande. Bangkok est une autre très grande ville. La région métropolitaine de Bangkok compte plus de 15 millions d'habitants. Pouvez-vous imaginer cela ? Certains d'entre vous y sont peut-être déjà allés. Je n'y suis allé que quelques fois auparavant, mais pour ma femme, c'était son premier voyage à Bangkok. Ce mardi matin-là, nous avons pris l'avion pour la région frontalière ouest de la Thaïlande, en bordure du Myanmar, à Maeso. Maeso est une petite ville, ou plutôt une grande bourgade, située à la frontière. Elle existe depuis nombre d'années, et comme vous pouvez le voir sur cette photo, il y a un grand affichage au-dessus de l'autoroute, représentant leur nouveau roi. Leur précédent roi, le roi Bunibol, est en fait décédé et son fils, le roi Vajiralongkorn, a été couronné il y a quelques années. Et donc, vous voyez sa photo absolument partout en Thaïlande. Alors, pourquoi sommes-nous exactement allés à Maeso? C'est là que nous avons un groupe de membres. Maeso est juste à la frontière du Myanmar, l'ancienne Birmanie, et en raison du conflit qui s'y déroule depuis bien des années, il y a des personnes réfugiées qui veulent fuir le pays pour diverses raisons. Et il y a un certain nombre de camps de réfugiés le long de la frontière. Eh bien, l'un de ces camps, au moins, se trouve dans la région de Maeso. Nous avons en fait certains membres qui vivent encore dans ces camps de réfugiés. Mais pourquoi y a-t-il des réfugiés? Eh bien, il y a des Birmans qui quittent leur pays, ainsi que des ressortissants du peuple Karen. Certains parmi vous en ont entendu parler. Il s'agit d'un groupe spécifique de personnes qui vivent le long de la frontière entre la Thaïlande et la Birmanie, et en raison du conflit qui s'y déroule et qui dure depuis de nombreuses années en Birmanie, les gens cherchent à fuir cette région. L'une des personnes que nous avons rencontrées, ainsi que sa famille proche, est un homme du nom de Turet. Turet est un homme d'un certain âge. Il a sa famille proche avec lui. Sa femme était avec lui dans l'un des camps de réfugiés. Mais nous nous sommes rencontrés chez sa sœur et son beau-frère, qui vivent à Maïso, afin d'avoir une réunion avec lui. Nous avons vraiment apprécié ce moment. C'était la première fois que je rencontrais M. Ray. En réalité, il est effectivement le fils biologique du seul et unique ancien, je crois bien, qui ait jamais été ordonné officiellement ici. En Birmanie, il y a des décennies, par M. Herbert Armstrong, un gentleman du nom de Sarlebe. Certains d'entre vous ont peut-être entendu ce nom. Eh bien, Touré est donc en réalité le fils de Sarlebe, et nous l'avons rencontré, lui et sa famille. Nous avons également rencontré le lendemain un autre membre qui vit dans la région, M. Ryan Foster. M. Foster est originaire des États-Unis. Il a participé à l'un des projets en Thaïlande il y a bien des années et il a épousé une dame locale, Luan, et ils forment maintenant une belle famille de 5 personnes. Nous nous sommes rencontrés chez eux à Maïso pour partager un repas avec eux et apprécier la fraternisation et le temps passé ensemble. L'une des raisons pour lesquelles M. Becker souhaitait s'y rendre, en plus de la visite aux frères et sœurs, était d'examiner des sites potentiels pour la fête. Nous souhaitons pouvoir organiser une fête à Maïso pour nos membres, et il y en a même certains de l'autre côté de la frontière qui pourraient venir et célébrer la fête. Nous envisageons donc un site de fête pour environ 25 personnes cette année, si cela se concrétise. C'est donc un sujet pour lequel nous vous demandons à tous de prier. Le vendredi 2 janvier, nous avons en fait quitté la Thaïlande et pris l'avion pour Singapour, et bien sûr, Singapour est un endroit très particulier. C'est en réalité une cité-État. C'est une très grande ville, très moderne et à la pointe de la technologie. Mais les produits et les services y sont très chers, soit dit en passant. Pendant que nous étions là-bas, nous avons rencontré un petit groupe de quelques membres présents dans cette région. Tout cela se passait lors du sabbat de la semaine suivante. Nous nous sommes réunis à nouveau dans notre chambre d'hôtel, mais cette fois-là avec les Becker, 5 autres personnes se sont jointes à nous pour l'assemblée du sabbat. Nous avons apprécié l'assemblée avec les frères et sœurs connectés, près de 30 personnes pour cette assemblée particulière du sabbat, en plus des 9 personnes d'entre nous, dans notre chambre, je crois. Après le déjeuner, nous avons fraternisé avec les frères et sœurs qui étaient avec nous, M. Simanyun Tak et sa famille, d'Indonésie. Certains parmi vous peuvent se dire que l'Indonésie, c'est très loin de Singapour. Eh bien, en réalité, ce n'est pas le cas. L'Indonésie est un pays très vaste, composé de nombreuses îles, hors l'île la plus proche, Bataan, n'est qu'à une courte distance en navette. Ainsi, les Simanyun Tak se sont joints à nous ce jour-là. Également, Mabel Ray, une jeune femme que vous verrez sur la photo, est en réalité la fille de Touré, que je vous ai présentée il y a un instant. Et puis, M. Luc Lim, un autre membre, ici dans la région de Singapour. Le lendemain dimanche, nous avons rencontré 2 autres dames qui n'avaient pas pu se joindre à nous lors de l'assemblée du sabbat. Nous avons partagé un repas ensemble. Et nous avons pu fraterniser avec ces dames et répondre à leurs questions bibliques. Nous avons vraiment apprécié cette opportunité de passer aussi du temps ensemble. Le lundi 5 janvier, nous avons ensuite pris l'avion pour Manille, qui est, comme vous le savez, la capitale des Philippines, une très grande ville, très semblable à Bangkok. Il y a des millions de personnes dans la région métropolitaine. Certains d'entre vous se souviennent peut-être que la semaine dernière, M. Franks a parlé du décès de l'un de nos pasteurs de longue date aux Philippines, M. Florante Siopan, et cela s'est produit pendant la première semaine de ce voyage. Donc, nous étions en train de voyager aux Philippines avec le directeur régional, M. Becker. Il devait de toute façon rester sur place, et il s'est trouvé bien sûr que c'est lui qui a célébré les funérailles plus tard cette semaine-là. Mais M. Siopan était un pasteur de longue date là-bas, très apprécié, et bien sûr sa famille était présente, dont certains sont en fait dans le ministère, et nous avons eu l'occasion de les voir également. Nous avons passé 3 jours à Manille, et au départ, la raison principale de notre venue était de passer quelques jours avec notre équipe du ministère à plein temps sur place, d'avoir des réunions et de partager quelques cours avec eux. Mais l'un des pasteurs, l'un des plus récents également, André Siopan, et son épouse Verline, n'ont pas pu venir, mais leur excuse était tout à fait valable. Verline était en train d'accoucher de leur 2e enfant, qui est né en fait pendant que nous étions là-bas. Ils habitent à environ 3 heures de route, donc nous n'avons pas pu voir André et son épouse, mais nous avons reçu une photo de leur petit garçon nouveau-né, Dean Eres Siopan, et bien sûr, Comme vous pouvez le deviner par son nom, ce petit garçon est en fait, je crois, l'arrière-petit-fils de Florante Siopane. Ainsi, pendant environ une semaine avec la famille en deuil, suite à la perte du patriarche de leur famille, Florante Siopane, ils ont eu la bénédiction supplémentaire d'un petit garçon nouveau-né dans la famille. Quelle bénédiction cela a été! Les cours que nous avons donnés au pasteur à Manille ont couvert un certain nombre de sujets, nombre d'entre eux. L'un d'eux portait sur les objectifs de M. Becker pour l'œuvre aux Philippines, des points qu'il souhaitait aborder avec eux. Nous avons parlé de l'importance de renforcer leurs relations les uns avec les autres, de la préparation et de la prédication des sermons, ainsi que du travail avec la direction locale, pour ne nommer que quelques sujets. Nous avons donc passé plusieurs journées entières très productives à Manille avec les pasteurs et leurs chères épouses respectives, mais en plus des réunions et de ces cours, nous avons pu passer un temps considérable à fraterniser ensemble. Il y a eu 3 repas de groupe pendant notre séjour, 2 déjeuners ensemble et un dîner, et nous avons vraiment apprécié cela. Comme vous pouvez l'imaginer, avec tous ces déplacements, ce fut un long voyage. Ce fut un voyage très chargé, mais merveilleux, avec l'opportunité de nous retrouver parfois avec des frères et sœurs que nous n'avions jamais rencontrés auparavant, ma femme et moi. Avec aussi le temps passé avec le ministère aux Philippines. C'est toujours un temps inestimable à employer avec nos pasteurs et leurs épouses, à discuter avec eux de leur vie, de leurs affaires personnelles dans les congrégations qu'ils servent. Et bien sûr, voyager avec M. Dave Becker et son épouse est vraiment quelque chose de très spécial. Je voudrais faire quelques commentaires avant de partager avec vous les remarques qu'il a faites à propos de ce voyage. M. Becker et son épouse, vous savez, ont acquis au cours des 40 dernières années une expérience vraiment phénoménale. Il a servi fidèlement l'Église à plein temps pendant près de 40 longues années. En fait, leur 40e anniversaire de mariage a eu lieu juste un jour ou deux avant ce voyage important. Lorsque M. Becker est allé à l'Ambassador College, durant l'année universitaire 1981 à 1982, il a travaillé avec dévouement pendant toute une année complète sur un projet spécial que la Fondation Ambassador menait alors en Thaïlande. Puis, durant l'année universitaire 1983 à 1984, il a dédié une autre année à un projet en Jordanie, toujours sous l'égide de la Fondation Ambassador. Ainsi, vous pouvez constater qu'avant même de se marier, avant d'obtenir son diplôme de l'ambassadeur collège, il avait déjà servi sur 2 projets, chacun durant une année, dans cette région du monde. Après l'obtention de son diplôme, il a été sollicité pour servir en tant que directeur du projet de la Fondation Ambassador au Sri Lanka, où nous avons dirigé pendant plusieurs années une école préparatoire pour les jeunes de cette région du monde. Ainsi, lui et son épouse ont acquis une expérience considérable. Et depuis l'an 2000, il a exercé son ministère à l'étranger, notamment en tant que pasteur au Kenya, pendant quelques années. Et au cours des 20 dernières années, il a occupé le poste de directeur régional en Asie, aux Philippines et au Moyen-Orient, et pendant un certain temps également en Australie. Lorsque l'on voyage avec M. Becker dans cette région du monde, sachant qu'il s'est rendu dans de nombreux pays, y compris en Inde à de très nombreuses reprises, il possède une richesse d'expérience et on a vraiment le sentiment de progresser et d'accomplir beaucoup de choses en compagnie des Becker. Nous avons vraiment apprécié cela. Avant que nous ne quittions Manille, juste la veille, j'ai demandé à M. Becker de faire un commentaire, pour vous tous, sur nos frères et sœurs là-bas en Thaïlande, ainsi que de partager ses commentaires personnels au sujet de notre regretté M. Florante Siopane.
Nous avons tout particulièrement accueilli un certain nombre de personnes qui se sont récemment installées avec nous en Thaïlande. Leur véritable origine est qu'ils font partie du grand groupe ethnique Karen. Tout au long des années passées, nous avons une grande diversité de membres issus de ce groupe ethnique qui ont fini par nous rejoindre officiellement. À Raleigh, en Caroline du Nord, nous avons un contingent assez important de membres Karen et ils constituent une partie remarquable de la congrégation locale et accomplissent un excellent travail au service des autres. En réalité, nous avons actuellement un membre actif là-bas, nommé Jacques Ong Min, qui a soigneusement traduit certains des documents officiels produits par l'Église en langue Karen. J'ai eu l'occasion de partager cela avec certaines des nouvelles personnes qui nous ont rejoints en Thaïlande. Tout récemment, nous avons accueilli quelques personnes de la région frontalière de Mae Sot en Thaïlande qui ont choisi de nous rejoindre dans les Dames pour collaborer avec nous. Et encore plus récemment, une famille a décidé de migrer depuis le Myanmar, l'ancienne Birmanie, pour rejoindre un camp de réfugiés en Thaïlande. La raison pour laquelle ils ont quitté leur pays d'origine pour venir s'installer dans ce camp de réfugiés, c'est que les conditions de vie actuelles sont extrêmement mauvaises au Myanmar. Il y a eu un violent coup d'État militaire il y a quelques années, pour être tout à fait honnête avec vous, une guerre fait rage en ce moment même dans le pays.
On essaie.
Plusieurs groupes ethniques sont actuellement engagés dans un conflit armé contre les forces militaires du pays. Et le problème particulier auquel cette famille était confrontée, c'est qu'ils ont un jeune fils désormais en âge d'être enrôlé et que, s'il restait au Myanmar, il serait contraint de rejoindre l'armée, ce que, en tant que membre de l'Église, nous ne souhaiterions absolument pas pour nos jeunes.
On essaie.
Qu'ils fassent cela. Et ce qui est encore pire, c'est que l'armée tue, en réalité, des membres de leur propre pays. Et donc, ils ont pris la décision de fuir leur pays et sont maintenant réfugiés en Thaïlande, et nous avons pu leur rendre visite au cours de ce voyage récent. Et j'avais eu l'occasion de leur rendre visite à plusieurs reprises par le passé. Ils ont une longue histoire avec l'Église, avec différents groupes de l'Église de Dieu, et nous sommes très heureux, à ce stade, qu'ils aient choisi de se joindre à nous.
Quelles sont les circonstances particulières auxquelles ces frères sont confrontés là-bas, dans cette zone frontalière, notamment du fait qu'ils n'ont pas de pasteur local?
Oui, il y a quelques défis. Premièrement, ils n'ont pas de pasteur local. Deuxièmement, l'une des barrières est la langue. Certains d'entre eux parlent un anglais assez correct, d'autres ont des difficultés avec l'anglais, mais il faut noter qu'ils parlent de nombreuses autres langues. Ils ne parlent tout simplement pas l'anglais aussi bien que, disons, nous le ferions. Un autre défi qu'ils rencontrent, évidemment, c'est celui des finances. L'un de nos membres nous a récemment confié, lors de notre visite la semaine dernière, que l'intégralité de leur ration alimentaire leur avait été retirée. Ainsi, pour parvenir à survivre, il a deux de ses propres enfants qui travaillent actuellement à l'extérieur du camp de réfugiés. Dans un cas particulier, à Singapour, avec une partie de l'argent qu'ils gagnent en travaillant, ils l'envoient à la famille afin de les aider ainsi à subvenir à leurs besoins. Ce sont donc les grands défis auxquels nos membres sont confrontés là-bas.
J'ai remarqué lors de ce voyage ce que je savais déjà. Le sabbat, vous avez ces frères dispersés non seulement en Thaïlande, mais aussi dans les pays voisins qui sont servis d'une manière particulière ce jour-là. Comment cela se passe-t-il?
Oui. Au cours de la période difficile de la pandémie de COVID, lorsque nous ne pouvions plus nous réunir en personne, l'un de nos membres, techniquement compétent, a mis en place une connexion Zoom avec certains de nos membres résidant en Asie du Sud-Est afin qu'ils puissent fraterniser ensemble durant le sabbat. Et cela a beaucoup évolué et continue de fonctionner de manière absolument remarquable pour nombre de nos membres. Nous avons maintenant une assemblée complète sur Zoom chaque sabbat, sans exception. Et nous avons également des membres qui nous rejoignent aujourd'hui depuis la Thaïlande, la Malaisie, Singapour et l'Indonésie. De plus, nous avons une famille entière qui se joint à nous depuis Victoria, en Colombie-Britannique, et qui a en fait elle-même initié ses réunions Zoom régulières. Et nous avons une dame qui nous rejoint depuis les Philippines, car elle n'est pas en mesure d'assister régulièrement dans sa congrégation locale. Donc, cette initiative a très bien fonctionné et nous nous efforçons continuellement de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour répondre pleinement aux besoins de nos frères et sœurs par le biais de ce service.
Tout à fait. Pourrais-je vous demander, comme M. Florianete Siopan est décédé récemment, de commenter brièvement son histoire et son héritage dans le service de l'Église aux Philippines?
Nous sommes profondément attristés par la nouvelle du décès de M. Siopan. Je vais d'ailleurs prendre l'avion pour Bacolod dès demain matin et je présiderai personnellement la cérémonie de ses funérailles ce vendredi prochain. Monsieur Siopan était. Il était un membre de longue date au sein de l'Église. Il a été l'une des toutes premières personnes à avoir apporté une contribution essentielle à la fondation de l'Église unie de Dieu aux Philippines en 1995. Et il fut aussi la première personne à s'être officiellement joint au rang de les dames lors de la formation initiale de l'Église en 2011. C'était véritablement un homme tout à fait remarquable, un serviteur authentique et sincère. Il avait un désir sincère de voir l'Évangile prêché dans toute sa région. Et il a accompli un travail absolument remarquable à cet égard. Il était extrêmement apprécié et profondément respecté par tous, et c'est une personne qui aurait fait absolument tout ce qui était en son pouvoir pour pouvoir continuer à servir l'Église. Malheureusement, sur le plan physique, il s'est beaucoup affaibli vers la fin de sa vie. Au cours des deux dernières années, il a vraiment eu des difficultés avec sa santé, au point de ne même plus être physiquement en mesure d'assister d'une manière régulière aux assemblées du sabbat. Mais M. Siopan a vraiment été un serviteur remarquable pour l'Église. Il a en fait pris sa retraite, comme vous le savez, vous étiez présent, lors de la cérémonie de son départ à la retraite. Et le nouveau pasteur nommé pour lui succéder a fait un travail remarquable, mais il est décédé de façon inattendue. Un an plus tard, d'une crise cardiaque. Ainsi, M. Siopan est sorti de sa retraite et a continué à diriger l'église jusqu'à ce que nous puissions finalement former et nommer quelqu'un d'autre comme pasteur dans cette région.
En effet, je sais qu'il manquera énormément à tous. Eh bien, un dernier sujet, pourrais-je vous demander de commenter sur les nouveaux pasteurs que nous avons eus ces dernières années aux Philippines et comment vous voyez leur évolution et leur service auprès des frères et sœurs dans ce pays?
Oui, c'est tout à fait exact. Nous avons effectivement accueilli un certain nombre de nouveaux pasteurs. En réalité, il faut savoir que notre pasteur le plus ancien au sein de l'Église a été ordonné en 2018 et que notre pasteur le plus récent a été ordonné tout récemment en 2024. Ainsi, il est vrai que ces hommes n'ont pas encore autant d'expérience accumulée que, disons, M. Siopan, mais ils sont néanmoins très bien préparés, extrêmement attentifs, particulièrement talentueux, et ils ont énormément de choses positives à offrir dans le cadre de leur ministère pastoral. Nous travaillons avec eux. Comme vous le savez, nous avons organisé quelques cours ici cette semaine afin de les aider à mieux accomplir leur travail. Nous sommes donc ravis pour eux et pour l'Église ici aux Philippines et je pense qu'ils vont réaliser une œuvre formidable à l'avenir.
Pour conclure, je souhaite vous livrer à tous quelques réflexions. Vous savez, au fil des années, pas seulement ces deux dernières années en servant à l'international, mais aussi lorsque j'ai eu l'occasion, les années précédentes, de voyager à l'étranger, eh bien, en rencontrant des gens, en leur parlant et en leur rendant visite dans de nombreux pays du monde, on apprend beaucoup sur les frères et sœurs. On apprend beaucoup sur eux et sur leur vie personnelle. On apprend beaucoup sur l'endroit où ils vivent et sur ce qu'est la vie dans cette partie du monde, et l'on découvre aussi leur engagement envers Dieu au fil du temps. Je me rappelle alors de l'objectif et du but dont Jésus-Christ parlait lorsque l'Église venait tout juste de commencer, il y a presque 2000 ans. Et je souhaite en quelque sorte établir un lien entre ces deux aspects, là où nous en sommes aujourd'hui et les nombreux membres que j'ai eu le privilège et l'opportunité de rencontrer et de les voir, alors qu'ils poursuivent leur parcours chrétien, ainsi que ce que Christ a dit aux premiers apôtres de l'Église il y a presque 2000 ans. En lisant ces versets, je souhaite souligner deux déclarations de Jésus-Christ. Je vais donc lire dans Matthieu, chapitre 28, versets 18 à 20. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Les deux expressions sur lesquelles je souhaite me concentrer dans ce que nous venons de lire, la première est « Faites de toutes les nations des disciples ». Lorsque, pour la première fois, on m'a lu ces versets il y a bien des années, je ne pensais pas vraiment à un autre endroit que celui où je vivais, c'est-à-dire aux États-Unis. Mais lorsqu'on a la merveilleuse occasion de voyager et de rendre visite à des frères et sœurs dans différentes régions du monde, on se rend compte que Jésus-Christ avait tout cela à l'esprit, il y a près de 2000 ans, lorsqu'il a confié à son Église les grandes responsabilités qui étaient les leurs. Aller dans chaque nation, vers laquelle Dieu les conduirait fidèlement, à travers le monde entier. Et Christ savait sans aucun doute qu'il y aurait des défis auxquels les membres de ces nations seraient confrontés et qu'il y aurait des défis auxquels les ministres qui servent ces personnes devraient faire face. Il comprenait la culture, les circonstances que représentaient toutes ces personnes, y compris le fait qu'elles formaient toute une seule famille, et il comptait sur son peuple, les tout premiers anciens de l'Église, pour aider à servir et à enseigner, chacun de ces hommes ayant été créé à l'image de Dieu. Et puis, l'autre déclaration qui est très encourageante se trouve vers la fin de ces trois versets, là où il dit « Je suis avec vous tous les jours ». Je suis avec vous tous les jours. Cela rappelle un peu les moments dans l'Ancien Testament où Dieu disait à ses serviteurs « Je suis avec toi ». Ces occasions rares étaient la chose la plus encourageante qu'une personne pouvait entendre de la part de Dieu, à savoir qu'il était avec eux et qu'il ne les abandonnerait pas. Eh bien, ces mêmes paroles sont celles que Jésus-Christ a prononcées devant les disciples à ce moment précis, ce qui a du sens, non seulement pour eux, mais aussi pour vous tous et nous tous. Et pour chacun des frères et sœurs dont nous avons parlé aujourd'hui, que Dieu a appelés et qui font partie de son Église maintenant. Il est aussi avec le ministère qui les a servis, avec les pasteurs et les bergers qui ont contribué à prendre soin d'eux. C'est une promesse sur laquelle le ministère et les membres qu'ils servent ont pu compter, non seulement dans l'Église du 1er siècle, mais aussi aujourd'hui au 21e siècle. Eh bien, c'est à peu près tout pour cette édition hebdomadaire de À propos. J'espère que vous avez pu apprécier ce bref aperçu de notre voyage en Asie. Assurez-vous de vous connecter la semaine prochaine, lorsque M. David Myers parlera de nos sites de la fête en 2026, ainsi que des transferts ministériels qui auront lieu dans les mois à venir. Et je souhaite sincèrement à chacun d'entre vous un merveilleux et reposant jour de sabbat.